Chapitre 15. Cela fait 23 mois que l'inspecteur Juna Linna a été condamné par le tribunal de première instance de Stockholm pour avoir libéré un prisonnier en détention provisoire en usant de violence. Menotté aux poignets et aux chevilles et muni d'une ceinture de transfèrement, il a été conduit au service d'accueil et d'évaluation du centre pénitentiaire de Kumla. L'unité de transport de l'administration pénitentiaire a confisqué ses quelques affaires personnelles, sa lettre de convocation et sa carte d'identité. Juna a été amené à la salle d'enregistrement, où il a dû se déshabiller et laisser un échantillon d'urine pour le dépistage, puis on lui a donné de nouveaux vêtements, des draps et une brosse à dents. Après une enquête de 5 semaines, il a été placé dans la section T de Kumla, plutôt qu'à l'unité de sûreté de Saltvik, là où se retrouvent habituellement les policiers condamnés. Il allait passer les prochaines années dans une cellule de 6 mètres carrés au sol recouvert de vinyle, équipée d'un lavabo et d'une petite fenêtre sécurisée. Durant les 8 premiers mois, Juna travaillait avec les autres détenus dans la grande blanchisserie. Il a fait la connaissance des hommes du 2e étage, leur a parlé de son travail à la police criminelle nationale et de sa condamnation par le tribunal de première instance. Il savait qu'il serait impossible de garder le secret sur son passé. Quand un nouveau condamné arrive, ses co-détenus demandent rapidement à quelqu'un de l'extérieur de se renseigner. S'il a des relations détendues avec la plupart des groupes de sa section, il garde ses distances avec la Brødreskapet et son leader Rainer Kronlid. La Brødreskapet est liée à des mouvements d'extrême droite et mène une activité de racket et de trafic de drogue dans tous les grands centres pénitentiaires. Après le premier été, Juna a réussi à entraîner 19 co-détenus volontaires à poursuivre des études à différents niveaux. Ils ont formé un cercle pour se soutenir mutuellement et jusqu'ici, seuls 2 d'entre eux ont abandonné leur formation. La monotonie du quotidien donne aux détenus l'impression d'évoluer à l'intérieur d'une horloge qui tourne au ralenti. Toutes les cellules sont ouvertes à 8 heures du matin et fermées à 20 heures. À chaque cran de l'engrenage qui fait avancer l'aiguille, une bribe de la vie des prisonniers s'éteint. Dès que les serrures automatiques se mettent à bourdonner le matin, Juna quitte sa cellule pour aller se doucher et prendre son petit déjeuner avant de filer avec les autres détenus de sa section dans le tunnel souterrain glacial. Les hommes débouchent sur le carrefour dont le kiosque est fermé. C'est la place centrale qui relie les différentes parties, semblable à un réseau d'égouts. Là, ils attendent l'ouverture des portes avant de s'éparpiller dans les couloirs. Les mecs de Malmö, superstitieux, passent un doigt sur la peinture murale représentant Zlatan Ibrahimovic, qui est originaire de la même ville qu'eux, avant de disparaître vers l'atelier de thermolaquage. Le groupe qui a choisi l'enseignement continue vers la bibliothèque. Juna est à la moitié de sa formation d'horticulteur, et Marco vient enfin de faire valider son niveau pour pouvoir poursuivre ses études et, à terme, passer son bac. Son menton tremblait un peu quand il affirmait son choix de l'option sciences naturelles. Cette journée s'annonce identique à toutes les autres dans le centre pénitentiaire, sauf pour Juna. Il s'apprête à recevoir la visite de Valeria De Castro et, après cela, sa vie prendra une tournure inattendue. Et périlleuse. Dans la salle des visites, Juna sort des tasses à café et des soucoupes, aplatit de la main les serviettes et allume la cafetière dans la kitchenette. En entendant le cliquetis des clés derrière la porte, il se lève. Son cœur se met à battre plus fort. Valeria est vêtue d'une chemise bleu marine à pois blancs et d'un jean noir. Ses cheveux châtain foncé sont coiffés en boucles souples. Elle entre, s'arrête devant lui et lève les yeux. La porte se referme, la clé est tournée. Il reste à se regarder un long moment avant de se chuchoter un bonjour. « Ça me fait toujours un drôle d'effet quand je te vois », dit Valeria d'une voix timide. Elle fixe Juna de ses yeux pétillants, puis son regard passe sur les claquettes noires avec le logo de l'administration pénitentiaire, le t-shirt gris-bleu aux manches couleur sable et les genoux usés du pantalon informe. « Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, » dit-il, « juste quelques biscuits à la framboise et du café. »« C'est très bien, des biscuits à la framboise, » commente-t-elle. Et elle remonte un peu son jean avant de s'asseoir. « Oui, ils ne sont pas mauvais, » renchérit-il en affichant un sourire qui accentue les fossettes de ses joues. « Comment est-ce possible d'être aussi mignon ?»«
Tout est dans la tenue, » plaisante Juna.
« Ça doit être ça, » rit-elle.
« Merci pour ta lettre, je l'ai reçue hier, » dit-il en s'asseyant en face d'elle.
« Elle était peut-être un peu osée, tu m'excuseras, » murmure-t-elle en rougissant.
Juna esquisse un sourire et Valeria ne retient pas le sien. Elle garde les yeux baissés avant de le regarder à nouveau.
« Mais en parlant de ça, je suis désolée qu'ils aient refusé ta permission, » ajoute-t-elle. Son menton se plisse quand elle s'efforce de réprimer un autre sourire.
« J'essaierai de nouveau dans 3 mois, et sinon ce sera une perme de quelques heures dans 6 mois, comme pour les condamnés à perpète. »
« Ça va s'arranger, » le rassure-t-elle, et elle cherche la main de Juna sur la table.
« J'ai eu Lumi au téléphone hier. Elle venait de lire « Crime et châtiment » en français. C'était sympa, on n'a pas arrêté de parler de livres. J'ai fini par oublier où je me trouvais, jusqu'à ce que la communication soit coupée.
Je ne me souviens pas que tu parlais autant avant.
Si tu répartis mes propos sur 2 semaines, ça ne fait que 2-3 mots par heure.
Une boucle tombe sur la joue de Valeria et elle l'écarte d'un mouvement de la tête. Sa peau a une nuance de cuivre poudré, les rides au coin de ses yeux sont profondes et la peau mince sous ses yeux est grise. Elle a un peu de terre sous ses ongles coupés courts.
Avant, on pouvait commander des gâteaux d'une pâtisserie à l'extérieur, dit Juna en leur resservant du café.
De toute façon, il faut que je commence à penser à ma ligne d'ici ta sortie, répond-elle, une main posée sur le ventre.
Tu es plus belle que jamais.
Alors, tu aurais dû me voir hier, réplique-t-elle avec un petit rire, et ses longs doigts frôlent une pâquerette émaillée qui pend à une longue chaîne autour de son cou. J'étais au bain de mer de Salzbaden, à 4 pattes sous la pluie pour préparer les plantations.
Des cerisiers Yoshino, c'est ça?
J'ai choisi une variété à fleurs blanches. Des milliers de fleurs, c'est assez incroyable. C'est comme si une tempête de neige s'abattait sur ce petit arbre au mois de mai.
Juna regarde les tasses et les serviettes bleu clair. La lumière de l'extérieur qui tombe sur la table forme de larges rayures.
« Et tes études, comment ça se passe ?» demande-t-elle.
« C'est génial. »«
Ça ne te fait pas drôle de changer d'orientation professionnelle ?»«
Si, mais d'une façon agréable. »
« Alors tu es sûr que tu ne veux pas réintégrer la police ?»
Il hoche la tête et tourne les yeux vers la fenêtre. La saleté sur la vitre est bien visible entre les barreaux horizontaux. Il se renverse contre le dossier et s'abîme dans le souvenir du dernier hiver à Natavara.
« À quoi tu penses ?»«
À rien, » répond-il à voix basse.
« Tu penses à Souma ?» constate Valeria avec simplicité. « Non. Quand j'ai dit ce truc sur la tempête de neige, il croise ses yeux couleur ambre et fait oui de la tête. Elle possède le don étrange de pouvoir quasiment lire dans ses pensées.
Il n'y a rien d'aussi silencieux que la neige quand le vent s'est calmé, déclare-t-il.
Tu sais, Lumi et moi, on était à ses côtés. On lui tenait la main.
Juna pense à l'étrange calme qui avait envahi sa femme juste avant sa mort et à la quiétude absolue qui s'était ensuivie. Valeria se penche par-dessus la table et pose sa main sur la joue de Juna, sans rien dire. Le tatouage sur son épaule droite se devine à travers le mince tissu de sa chemise.
« On tiendra le coup, n'est-ce pas ? » dit-elle à voix basse.
« On tiendra le coup, » confirme-t-il avec un hochement de tête.
« Tu ne vas pas me briser le cœur, Juna ?»